Vous êtes avec SBS French.
Journal des sports de ce dimanche, avec tout d'abord le foot, l'Euro, avec l'Angleterre qui écrase l'Ukraine 4-0. Bilan avec Antoine Grenier pour Radio France Internationale.
Oui, c'est à croire que l'Angleterre ne veut finalement pas sortir de l'Europe. En tout cas, elle ne veut pas sortir de l'euro et ça s'est vu hein, ce soir. C'était pas Fontenoy, mais clairement, les Anglais ont tiré les premiers dès la 4e minute par Harry Kane, parfaitement servi par Raheem Sterling dans la surface. Il vient placer un pointu, Harry Kane, très important parce que ça change un petit peu la face du match face à une équipe ukrainienne qui, en plus de la blessure de Christophe, son défenseur central assez vite dans la partie, mais n'a pas trouvé les clés, a été tout simplement assommé par les coups de tête de cette formation anglaise, parce que au retour des vestiaires, les Ukrainiens ont pris trois buts de la tête. Ça venait de la droite, ça venait de la gauche, mais au final c'était la même chose, un buteur anglais tout seul qui plaçait sa tête pour battre Bouchchan, Maguire, Kane à nouveau pour un doublé, puis Henderson à la 65e minute. Bref, l'Angleterre ce soir s'impose. Les Anglais qui ont tiré 10 fois, qui ont cadré 6 fois et qui ont marqué 4 buts. Ce soir, l'Angleterre était chirurgicale et l'Ukraine était impuissante.
Et dans l'autre match, le Danemark a battu la République tchèque 2-1. Marie-Amélie Mott pour RFI.
Qui aurait pu imaginer les Danois en demi-finale de l'Euro il y a un mois? Pas grand monde, a priori. Le Danemark devient la première équipe de l'histoire à atteindre le dernier carré de l'Euro après avoir perdu 2 matchs de poule. C'est une véritable épopée que sont en train d'écrire Youssouf Poulsen et ses coéquipiers. Alors tout à l'heure, ils ont rapidement plié le match. 2-0 à la mi-temps grâce à Thomas Delaney et Kasper Dolberg. Patrick Tchik a ensuite réduit le score pour les Tchèques, mais sans conséquence. 2-1, score final. On a vu des scènes de joie incroyables à Copenhague, la capitale danoise. Et l'émotion est d'autant plus grande dans le pays que la compétition avait commencé de manière dramatique avec l'arrêt cardiaque du capitaine Christian Eriksen lors du premier match contre la Finlande. C'est pour lui que tous ses coéquipiers jouent désormais. C'est pour lui que le pays vibre. Écoutez l'émotion de Thomas Delaney, élu homme du match tout à l'heure.
C'est incroyable ce que nous avons vécu. C'est difficile à décrire maintenant. Ce n'était pas notre meilleur match, mais justement, c'est peut-être lié à ce moment à Copenhague où nous avons lutté, où nous nous sommes battus. Peut-être que nous avons écarté ce moment aujourd'hui. Et maintenant, c'est juste énorme. C'était notre objectif depuis le début de revenir à Wembley, car c'est là que nous avions joué en Ligue des Nations. Maintenant, nous y sommes, c'est dur à croire. Nous avons une bonne équipe, il y a une super ambiance, donc pourquoi ne pas aller encore plus loin ?
Aller encore plus loin comme en 1992, l'année du sacre pour les Danois à l'Euro, Marie-Amélie.
Oui, c'était imposé à la surprise générale. Alors peuvent-ils à nouveau créer l'exploit? Les hommes de Kasper Hjulmand totalisent 11 buts dans le tournoi, Antoine le disait tout à l'heure, meilleur total de leur histoire à l'Euro. Ils produisent un football dynamique, rapide, enthousiasmant. Et vu ce que les Anglais ont proposé ce soir contre l'Ukraine, on peut s'attendre à une très belle demi-finale mercredi à Wembley.
Pour rappel, vendredi, l'Italie a dominé la Belgique 2-1 et jouera l'Espagne en demi-finale. L'Espagne qui a gagné au tir au but 3-1 après prolongation contre la Suisse. Cédric de Oliveira, Radio France Internationale.
La Squadra Azzurra qui a remporté le choc des quarts de finale face à la Belgique 2-1 dans un match très enlevé. Et les transalpins entreprenants ont marqué grâce à Barella et Lorenzo Insigne. Le joueur napolitain, auteur d'une magnifique frappe enroulée, son deuxième but du tournoi. Insigne qui se sent bien avec le maillot de la Squadra.
Je prends beaucoup de plaisir, je n'ai jamais eu autant le sourire en jouant. C'est comme si je tapais dans le ballon à la maison avec les copains. Je m'éclate en fait. Il faut vraiment rendre hommage à notre entraîneur, il nous permet de pratiquer notre meilleur football. Tous les joueurs prennent du plaisir. Mais nous devons continuer à travailler, continuer à faire des efforts. Nous n'avons encore rien gagné.
Lorenzo Insigne au micro d'Hugo Moissonnier. En demi-finale, l'Italie affrontera donc l'Espagne qui est difficilement venue à bout de la Suisse. Un partout, mais 3-1. Contrairement au match face à la France, la Nati a complètement manqué cette séance. 3 tirs au but ratés.
Les supporters belges étaient naturellement déçus. On les écoute sur European Broadcasting Union.
À la deuxième mi-temps, on a vraiment cru qu'on allait pouvoir marquer. Quand il y avait le penalty, on était hyper contents et tout, et on a cru qu'on allait réussir à le rattraper, et au final ça n'a pas marché. Mais ils ont hyper bien joué, on est hyper fiers d'eux, et du coup c'est génial.
C'est l'espoir de dire qu'on aura notre équipe à la Coupe du Monde,
et
la déception,
à l'Italie,
la déception d'avoir perdu contre, pour nous, ce qui sera le vainqueur de l'Euro.
Bah, félicitations à l'Italie.
Ouais, félicitations à l'Italie.
On s'est donné à fond, on a fait de notre mieux, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Mais pour la Coupe du Monde, on est,
on
là.
Est là.
On est là. On a
ayez peur. Ayez peur.
On passe au Tour de France. Hier, la 8e étape, la première dans les Alpes, gagnée par le Belge Dylan Teuns. Tadjar Pogacar a pris le maillot jaune. On l'écoute.
C'est vrai qu'après l'étape d'hier, il fallait réagir et j'ai saisi cette opportunité. Vous savez, l'attaque est la meilleure défense en vélo. Sans doute que certains coureurs ont payé les efforts de la veille. Après, savoir si je vais attaquer comme cela à chaque étape de montagne, pas forcément. Déjà, ce dimanche, il y a une étape terrible en montant Vertine qui nous attend. Alors on verra, il va falloir défendre ce maillot jaune intelligemment.
Oui, nous allons faire notre best to defend. And just ride defensive from now on.
Et puis le Français Guillaume Martin, qui ira au JO de Tokyo, est arrivé à la 8e place. On l'écoute.
Eh ben, je me dis certainement pas en tout cas que je vais essayer de le suivre parce que c'était tout bonnement impossible. Oui, et c'était très très impressionnant. Après, je sais pas les écarts qu'il a fait. Je pense que c'est assez phénoménal parce que je m'attendais à ce qu'il y ait d'autres. Favori du classement général qui me rattrape ensuite et aucun m'a rattrapé, donc ouais, c'est impressionnant, il n'y a pas d'autre mot.
Benoît Cosnefroy ira également au Japon, on l'écoute.
Je sentais la sélection possible, c'était dans un coin de ma tête et j'en rêvais. Et sincèrement, quand Thomas m'a appelé, j'étais un gosse et je suis tellement heureux de pouvoir représenter les couleurs de l'équipe de France là-bas, au JO. Sincèrement, de voir tous ces sports ensemble, c'est les valeurs olympiques et c'est les valeurs de base du sport. Et c'est juste les souvenirs d'enfance, de voir plein de gens en compétition où ça peut aussi changer le destin d'une vie et changer tout simplement une vie.
On passe au tennis à Wimbledon, le 3e tour, quelques résultats d'hier avec l'Australien Nick Kyrgios, forfait pour blessure aux abdominaux lors de la première manche contre Félix Auger-Aliassime, le Canadien. Ça passe pour Ash Barty contre Siniakova en deux manches. Alia Tomljanovic, l'Australienne, a gagné contre Yelena Ostapenko, la Lettonne, en trois manches. Roger Federer a lui gagné en quatre manches contre Cameron Norrie, le Britannique. Et ça passe aussi pour Medvedev et Zverev. Brigitte Henriquez a été élue à la tête du CNOSF, le Comité National Olympique du Sport Français. Précision de Christophe Diremzian pour RFI.
Brigitte Henriquez n'a jamais connu le frisson des Jeux, le football féminin ayant été admis trop tard dans sa carrière. Mais cette professeure de PS, rodée aux arcanes institutionnels et adoubée par le président sortant Denis Masseglia, est très fière de s'inscrire dans les pas des pionnières du sport olympique français.
On a inauguré la statue d'Alice Millat il n'y a pas très très longtemps. Elle s'est énormément battue pour permettre aux femmes de participer aux Jeux Olympiques. Mon parcours, c'est un parcours de combattante. Moi aussi, j'ai pas pu pratiquer le football dans un club quand j'étais jeune. Et voilà, je suis prête à relever le challenge de faire en sorte que ces 108 nous permettent de peser beaucoup plus dans le débat public.
Relance de la pratique du sport en club après la crise sanitaire, Paris 2024, maintien des postes de cadre technique, les chantiers ne manqueront pas pour la future ex-dirigeante de la Fédération Française de Football. Son président, Noël Le Graët, ne doute pas qu'elle les mènera à bien.
Elle est d'une grande gentillesse, une grande souplesse. C'est pas une femme à chercher des conflits. Elle a vraiment à la fédération une estime considérable et c'est une fille qui travaille énormément avec beaucoup d'intelligence. Ce sera, je suis persuadé, une bonne réussite pour le CNO.
Un comité pourtant d'ordinaire méfiant vis-à-vis des personnalités issues du football, discipline à l'esprit assez peu olympique. Le tournoi de Tokyo n'est même pas intégré au calendrier FIFA et les clubs professionnels refusent de libérer les joueurs. Mais Brigitte Henriquez promet que la donne changera pour les Jeux de Paris.
Et puis le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, c'est ce dimanche et c'est le Néerlandais Max Verstappen qui partira en pole position. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.